lois sur la sécurité routière peuvent être encore sur la route. Le pire, depuis cet accident-là, c'est que personne ne veut entendre ce qu'on a à dire. Personne ne veut toucher à ça. C'est donc ben radioactif. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut m'expliquer pourquoi, là, j'aimerais ça l'entendre. C'est-tu parce que vous allez perdre des votes? C'est quoi? Le transport relève du fédéral. C'est vous qui dictez les lois, les barèmes. Moi, là, il n'y a plus jamais personne qui va m'appeler maman. C'était ma seule fille. Aujourd'hui, là, il y a des responsables qui rentrent chez eux, qui voient leurs enfants, qui continuent leur vie. Nous autres, on fait quoi? On vit pas, on survit.
Et la fin du témoignage. Nous autres, on fait quoi? On vit pas, on survit. Donc là, tu es en train de me dire, Antonine, que notre premier ministre, il privilégie ses petits amis à des femmes comme Nathalie Poulain qui vivent un drame humain.
En tout cas, moi, j'ai pas d'autres explications. J'en ai pas d'autres. Parce que cette mère-là, elle se bat, elle prend son énergie, elle dit, là, elle a survie, elle vit plus. Mm-hmm. Mais elle prend son énergie puis elle prend son temps pour se battre pour qui? Pour les autres parents qui n'ont pas encore perdu leurs enfants.
Elle monte à Ottawa, elle va à une commission parlementaire, elle raconte son histoire, puis malgré ça, il n'y a rien qui bouge.
Il n'y a rien qui se passe.
Sa fille, elle l'a perdue, là.
Ben oui, c'est fini. Sa vie est gâchée.
Puis dans ces témoignages-là, parce qu'il y a un bout, j'avais fait entendre là, les trois témoignages des trois femmes qui avaient paru, puis c'est super poignant celui qu'Anto nous faisait réentendre aujourd'hui. Mais elles le disent. Le problème, en plus, c'est qu'ils sont toujours sur nos routes. Parce que le temps de l'enquête, le temps des peut-être des accusations, ou si ça tombe, ils roulent encore.
Le chauffeur qui a tué sa fille...
Roule
toujours.
Oui.
Puis c'est un chauffeur qui n'a pas vu multiples pancartes sur sa route.
Ce sont des dangers publics. Je suis désolée.
T'sais, ah, vraiment?
Tu sais, des fois, on dit « Ah, ça prend une catastrophe pour que quelque chose bouge. » Là, il y a des catastrophes. Et le gouvernement ne bouge même pas.
Exactement.
Donc, honnêtement, là, c'est scandaleux. Souvent, on parle de scandale où on a perdu beaucoup d'argent et tout ça. Là. Mais celui-là, là, c'est en train de changer la face de la sécurité sur nos routes à travers tout le pays. Et plus on attend, plus ça va être difficile. Parce que l'industrie du camionnage, je vous le dis, là, est en train de se transformer pour devenir ça.
Oui, pour devenir du cheap labor, tout simplement.
Pour devenir, on prend du cheap labor, c'est la ubérisation. Du camionnage. Ah,
j'aime ton thème. Stéphane qui nous écrit justement, vous êtes excessivement à réagir par texto. Stéphane nous écrit, hey, c'est pas justement ce que Pascal avait couvert il y a plusieurs semaines. Oui, puisque Pascal avait couvert en octobre lors de l'accident ici à Québec.
Mais il n'y a rien qui
bouge. Mais imaginez, c'est pour ça qu'on en parle encore, parce qu'il n'y a rien qui bouge, comme tu viens de le dire, Antonine. Et ça, il va y avoir d'autres morts sur nos routes.
Ben, c'est ça. Jusqu'à la prochaine catastrophe. Honnêtement, c'est un peu décourageant. Donc, bref, on lâche pas. Nous, de notre côté, on va continuer d'annoncer. Si vous avez des députés fédéraux à qui vous voulez indiquer que vous trouvez que c'est une priorité, joignez votre voix à la nôtre. On va essayer de continuer de faire bouger les choses.
En plein son. On termine le caucus. Je te fais entendre Gilles Laulier le 11 mars dernier sur le moratoire. Un échange houleux avec Simon Carmichael du journal Le Soleil.
Mais une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre. Nous avons pris la décision de poursuivre notre développement. C'est clair. Parce qu'à terme, progressivement, nous allons libérer une capacité pour 25 000 nouvelles unités d'habitation.
La ville et les contribuables n'avaient pas la capacité de payer pour le faire aussi vite que le rapport le recommandait.
Mais puis c'est quoi le problème?
Bien, c'était qu'on est en moratoire aujourd'hui.
Non, mais pourquoi vous avez fait tout un plat avec ça? Il n'y a pas de plat à faire avec ça, moi.
Puis c'est quoi le problème? Pourquoi vous avez fait tout un plat avec ça? Bien, parce que là, il y a des poursuites d'entrepreneurs pour 30 millions. Le gouvernement devrait donner une amende de 6 millions à la ville de Lévis parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer leurs eaux usées. Il y a un moratoire sur la construction. Est-ce que je peux continuer à énumérer les problèmes ou M. Laulier a compris?
C'est pas vrai. C'est pas grave, ça, Jean-François. C'est des détails.
Hey, c'est pas grave parce qu'on a mis Lévis dans les 10 plus grosses villes au Québec.
Bien, voilà. Alors, ça pose toute la question du développement, oui, à tout vent. Là, le développement là, comme une fin en soi, mais c'est parce qu'il faut faire du développement de manière responsable. Et quand les infrastructures ne suivent pas, bien, on va prendre le mur. Puis c'est ce qui est en train de se passer. Mais M. Laulier, lui, bien, il est parti. Donc, ça vient mettre de l'ombre sur son bilan à lui. Et là, on a une nouvelle administration qui doit finalement conjuguer avec tout ça. Je sais que tu en parles tantôt avec
Alicia Despins, exactement.
Donc, je vous laisse analyser la situation avec plus de profondeur, mais c'est quand même, je trouve que c'est, ça vient vraiment mettre une tache au dossier de M. Lehoulier. Et c'est vraiment juste quelques semaines après l'élection qu'on se rend compte à quel point Lévy est en train de rentrer dans le mur avec ça.
À ceux qui voulaient ériger la statue de Gilles Lehoulier, vous a laissé un trou de 13,9 millions de dollars dans le budget et un beau moratoire qui va vous coûter des dizaines de millions de dollars.
On en jase jusqu'à...
À l'émission On en jase, on vous parle de l'actualité récente qui vous fait réagir. Et je suis certain que le prochain segment va vous faire réagir parce qu'on s'en va à l'instant même rejoindre l'excellente chroniqueuse en politique américaine, Valérie Beaudoin, qui nous accorde quelques minutes. Valérie, merci beaucoup pour ton temps précieux que tu nous accordes.
Avec plaisir.
Valérie, on va commencer en écoutant une portion du discours de Donald Trump sur l'union de l'État.
Tonight, after just one year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before, and a turnaround for the ages. It is indeed a turnaround for the ages. And for all of these reasons, I say tonight, members of Congress, the state of our union is strong.
L'union de l'État est forte. On a fait un virage comme jamais il ne s'en est fait avant. C'est un virage positif ou négatif, Valérie?
Ah, mais ça dépend pour qui. pour Donald Trump et ses partisans, c'est clairement un virage positif. Pour l'autre 50%, je vais dire, de la population, c'est un virage assez négatif. Ou je dirais même pour plus que 50% de la population, si je me fie au sondage avant son discours, la majorité disait quoi? Disait, ben justement, on s'en va pas dans la bonne direction. Il y a des changements qui sont nécessaires parce que au niveau de l'économie, au niveau des mesures qui sont prises, mais finalement, on pense pas là, qu'on est en train d'améliorer justement cet état de l'union. Alors, c'était dans cette perspective, je trouve que il a peut-être pas pris le pouls de tous les gens qui écoutaient en disant que tout était beau, tout était parfait, quand tu te rends compte finalement qu'il y a une grande partie de la population qui se dit « OK, c'est bien, mais on aimerait peut-être que tu en fasses plus si tu veux avoir notre confiance là, pour la deuxième partie de son mandat. »
Il y a le contenant et le contenu dans son discours. Si on y va avec le contenant 1h47 de temps, qui place ce discours-là de Donald Trump comme discours de l'État de l'Union en étant le plus long jamais connu. Ça a battu le record du démocrate Bill Clinton, qui avait parlé 1h20 en 2000. Là, ça, c'est le contenant. Puis le contenu aussi, parce qu'il y a plusieurs Américains, je sais pas si tu es d'accord avec ça, qui se disent un peu laissés de côté parce que ça a été plutôt des enjeux internationaux ou encore une fois se flatter le dos. Pas nécessairement parler ce qui touche les citoyens directement.
Ben, en fait, c'est que le discours sur l'État de l'Union, premièrement, c'est extrêmement long, là, même pour quelqu'un qui est passionné de politique américaine, là, je devais pratiquement me pincer pour rester éveillée à certains moments. Je trouve que la première partie du discours, là, il avait vraiment été, comme on dit, bien briefé par les gens de son équipe en disant, bon, on va parler, là, qu'est-ce qu'on a fait pour l'économie, les baisses d'impôts, voici comment qu'on se considère qu'on a amélioré la situation des gens avec des exemples très concrets, hein, pas juste parler des tarifs, de l'argent qui entre, que ça n'a pas de bon sens, et tout ça. Et par la suite, là, c'était vraiment, je dirais, un espèce de copier-coller de ce qu'on voit quand il fait des points de presse spontanés dans le bureau ovale ou de ses déclarations. C'est vraiment un discours qu'on voit en campagne électorale ou le discours de Trump qui va un petit peu dans tous les sens. Et tu vois, mon contraire, je pensais qu'il allait parler encore plus de l'international. J'ai l'impression qu'il s'est quand même limité parce que l'Iran, exemple, on s'attendait, est-ce qu'il va, mon Dieu, annoncer une attaque imminente? Est-ce qu'il va expliquer c'est quoi exactement ses menaces? Et moi, je trouve que pour cet élément-là, il n'y avait pas assez de chair autour de l'os, mais tu as bien raison de dire que les Américains, c'est pas leur priorité. Hein. Ils veulent savoir là, c'est quoi les promesses tangibles. Et je pense pas qu'on a appris grand-chose de nouveau. Quelques petites promesses ici et là, surtout des attaques envers les démocrates, mais est-ce que les Américains se lèvent ce matin, pour ceux qui ont vraiment tout écouté, je pense que ça reste quand même une minorité, en se disant ben, parfait, voici ce qu'il va faire là, pour regagner notre confiance.
Puis c'est complexe de parler de ça parce qu'on veut pas être dans la démagogie, mais il faut appeler un chat un chat. Quand on voit les commentaires des Américains, effectivement, bon, ils se demandaient elle est où notre place en tant que citoyen, mais ils se demandaient aussi quels sont les mensonges et quelles sont les vérités? Parce que beaucoup ont dit, là, à un moment donné, ça vient apparent qu'on nous ment.
Oui. Est-ce que vous avez une heure devant vous, finalement, pour de toutes les sources? Mais Donald Trump est connu pour ça. Là, je pense que je vais surprendre personne. Là, que les exagérations, quand j'ai baissé le prix des médicaments de 600%, là, c'est impossible. On s'entend qu'on donnerait de l'argent aux gens qui achètent les médicaments.
Hey, Valérie, il n'y a aucun immigrant illégal qui est rentré aux États-Unis dans la dernière année.
Oui, parce qu'il n'y en a pas qui ont été vraiment interceptés. C'est toujours des exagérations. Par exemple, l'exemple le plus flagrant autre que celui que je viens de donner pour moi, c'est, bon, vous voyez, il y a tant de millions de gens qui ne sont plus sur l'aide alimentaire, là, ce qu'on appelle les food stamps, là, donc qu'on aide les gens à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que leur situation s'est améliorée, c'est parce qu'on a coupé l'aide dans l'aide alimentaire. En fait, on a changé les critères, fait qu'il y a 2 millions de personnes de moins qui peuvent pas avoir accès. Alors leur situation est peut-être même pire. Alors c'est vraiment, on nous présente un chiffre, mais sans le contexte. Alors ça démontre certaines faussetés là, de juste dire que l'avenir est rose. Je pense que c'est prendre un peu les gens pour des gens, comment dire, qui suivent pas du tout l'actualité. Là, quand on parle du Venezuela, dire c'est notre partenaire, nos amis. Tu sais, on dirait qu'on oublie aussi que le gouvernement de Maduro, il est plus là, mais les autres sont encore là. Parler du prix du pétrole, il y a eu des exagérations. Le prix à la pompe, là, c'était toujours dans les cas les plus extrêmes qui se voient dans peut-être une station.
Ben oui, parce que le prix à la pompe a augmenté de 10,3% dans la dernière année. L'inflation, c'est 2,7%. Là, c'est pas 1,7 comme Donald Trump le dit. Valérie, je veux t'entendre sur Al Green, ce député démocrate du Texas qui s'est fait expulser avec sa pancarte. Les personnes noires ne sont pas des singes. Comment tu as trouvé l'intervention d'Al Green et est-ce que tu as eu la même gêne que moi quand tu as vu les partisans de Donald Trump se lever à son expulsion pour crier USA, USA, USA? Non, les amis, les États-Unis, c'est pas un pays raciste.
Mais c'est ça. Al Green a été connu aussi l'an passé pour avoir été expulsé parce qu'il s'est levé, il parlait fort, il répondait à Donald Trump directement. Donc, je pense qu'il savait très, très bien ce qu'il faisait avec cette pancarte-là. Puis le pire, c'est qu'il y a eu d'autres personnes qui avaient des pancartes. Là, l'année passée, il y avait une femme, je me souviens plus de son nom, là, qui avait une petite pancarte plus discrète, là. Justement, quand le président passait, elle n'a pas été expulsée, mais Al Green était dans un moment plus provocateur. Puis on peut comprendre avec la vidéo super raciste qui a été partagée, là, il y a déjà plus d'une semaine sur le compte officiel de Donald Trump, sur Truth Social, où on voit les Obama qui sont comme des singes, là. C'est complètement horrible, là. Puis de dire c'est un envoyé qui a fait ça par erreur, là. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui y croit, surtout quand à peu près 2 jours plus tard, on dit non, tout ce qui est sur Truth Social, considérez ça comme vraiment des politiques directes du président. on se mélange même dans nos propres mensonges. Donc, je comprends le message, mais si je me fais l'avocat du diable, il y a toujours cette idée de décorum dans un moment comme ça. Il y a aussi eu, il y a quelques années, quand c'était Joe Biden, Marjorie Taylor Greene, qui avait, dans le temps qu'elle était encore dans le camp Trump, je vais dire ça comme ça, l'élue républicaine qui avait la casquette MAGA, qui criait après Joe Biden. Donc, des éléments comme ça, là, je veux dire, des éléments pour attirer l'attention sur un enjeu, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors ça, c'était un des exemples avec Al Green. Il voulait passer son message et je pense que, justement, ça fait le tour des États-Unis, ce message-là, justement, pour rappeler qu'il y a eu des propos racistes qui ont été donnés. Et au niveau aussi de ce que les autres, les autres mentions importantes pour moi, il y avait les épinglettes, hein, de dire « donnez-nous les dossiers Epstein », les vestons blancs avec des écritures. Il y avait plein de symboles comme ça, très, très forts. Certains plus subtils que d'autres, mais quand même pour envoyer un message là, aux États-Unis. Puis de l'autre côté, chez les Républicains, on avait les cravates avec le visage de Donald Trump que je trouvais, ma foi, permettez-moi, au niveau de la mode, très quétaine. Mais des gens qui étaient habillés en drapeau américain. On avait vraiment les opposés là, des deux côtés.
Il y en a qui se font faire des tatous aussi. C'est chacun son choix, honnêtement. Oui. Mais comment ça a été reçu, ça, à l'international? As-tu eu le temps un peu de voir comment les premiers ministres ou encore les présidents recevaient ce discours-là? C'est sûr que tout le monde est à l'écoute.
Oui, les gens sont à l'écoute, mais je veux dire, si, exemple, je vais donner l'exemple du Canada. Si on avait parlé du 51e État, parce que c'était comme notre stress, hein, surtout depuis la défaite crève-cœur que j'ai des tests répétés de l'équipe canadienne, justement, qui l'a échappé autant chez les femmes que chez les hommes, là, qui n'a pas eu la médaille d'or aux Olympiques. On fait bien des blagues en disant devenir 51e état, vous allez l'avoir, votre médaille. Alors, je m'attendais à un commentaire là-dessus. Tu vois, on n'a pas besoin vraiment de réagir au Canada parce que finalement, ben, on n'a pas eu de trop de commentaires. Et il a tellement ignoré aussi les autres pays parce qu'avec toute la décision sur les tarifs de la semaine dernière, là, c'est tout est dans les limbes. On ne sait pas ce qui va se passer avec les ententes qui sont en cours. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il n'a pas parlé du tout de la Chine. D'habitude, on parle de la Chine à tous les discours à peu près sur l'état de l'Union. Et là, ah, on n'en a pas parlé. C'est drôle. Bien, il y a un voyage qui est prévu bientôt en Chine et on ne sait pas trop comment on va s'entendre sur les traités et tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu de la prudence et les dirigeants étrangers aussi vont être prudents par rapport à ça. C'est sûr, on n'a pas non plus parlé de l'Ukraine. Je trouve que ça aurait été une belle occasion aussi d'en parler un petit peu plus et d'envoyer un message fort à Vladimir Poutine.
Valérie Beaudoin, chroniqueuse politique et chercheuse associée au très reconnu Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Valérie, merci pour le temps précieux que tu nous as accordé et on se reparle prochainement.
Oui, à bientôt.
Salut. Bonjour. Valérie Beaudoin qui était avec nous. D'ailleurs, elle a parlé de l'Ukraine. Pascal, tu nous as préparé un dossier sur l'Ukraine qu'on va faire tout à l'heure après l'entrevue de Laurent Dubreuil.
Avec plaisir.
Excellent. On passe dans un instant. On va parler avec Ruba Gazal, co-porte-parole pour Québec solidaire. On va revenir, entre autres, sur le changement de règles pour Alexandre Boulris. Mais sondage intéressant également pour Québec solidaire aujourd'hui. 84% des Québécois appuient leur politique voulant que les logements n'augmente pas plus que l'inflation. Donc, on va parler de ceci avec la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, à l'émission On en jase sur Boulevard 102.
Peut-être que vous étiez content des températures un peu plus printanières là, récemment, mais en même temps, être pogné dans le slotch à la semaine de relâche, peut-être moins le fun. Fait que la belle neige qu'on reçoit depuis quelques heures, ça va aider à en profiter. Et on vous envoie pour la relâche du côté du manoir du lac de l'Age. Pourquoi? Ben, pour aller jouer dehors. Avec les enfants, ça fait du bien. Ils vont rentrer brûlés. On va se faire un bon souper. On va écouter un film. Puis ça va être une des plus belles journées de leur relâche. Pas vraiment obligatoire. On s'entend-tu que ça coûte très, très cher? Alors, on planifie un séjour pour la semaine de relâche qui va comprendre plein d'activités. Raquettes, fat bike, patins, randonnée. Ça, c'est quelques-unes des nombreuses activités qui sont offertes sur le site du manoir du lac de l'Age et c'est pour toute la famille. Si jamais ça vous tente de vous détendre aussi, il y a l'espace thermal, c'est toujours inclus, intérieur, extérieur, pour une expérience qui est complète. Tu peux relaxer, tu peux t'offrir un soin, un traitement parce qu'on a le spa du manoir aussi sur place. Et si tu aimes bien manger, que tu sois un lève-tôt ou un couche-tard, on a pour toi une escapade gourmande en plus de ça. On t'offre un petit déjeuner, un lunch, un souper au restaurant Le Gourmet et on n'oublie jamais le brunch du dimanche qui, en passant, est très réputé, que vous dormiez ou pas au manoir du lac de l'Age. Pour la relâche, c'est le manoir du lac de l'Age, c'est tout autre chose. Pour info, réservation, lacdelage.com.
Bienvenue aux Rougeurs.
Avec un mode de vie audacieusement bien pensé.
Le midi, on en jase à Boulevard 102.
Émission On en jase qui se poursuit, il est midi 49 minutes. On va s'entretenir dans quelques instants avec Ruba Gazal pour parler de plusieurs politiques de Québec solidaire. Du côté de la météo, c'est moins 6 degrés présentement. Il y a de la neige, ça tombe à plein ciel. Il y a une petite accumulation sur nos voitures aussi. Donc, soyez prudents sur les routes. À la circulation, Pascal, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler?
Oui, soyez prudents parce qu'il y a des petites affaires quand même. Laurentienne-Nord, là, on en avait parlé en début d'émission, mais début de la sortie vers le boulevard Jean-Talon, c'était partiellement entravé. Il y avait une panne. Ça s'est résorbé, donc au moins c'est terminé. Cependant, là où ça brasse un peu plus, on s'en va du côté de l'autoroute 40 Est, à la hauteur avenue Blaise-Pascal. Toute la voie droite est bloquée. Il y a un accident là. Donc, je répète, c'est à la hauteur avenue Blaise-Pascal. Les services d'urgence sont arrivés il y a quelques minutes. On est en plein remorquage aussi dans nos nouvelles des trois dernières minutes. Et sinon, ce qui est arrivé, ce qui vient d'arriver, Félix Leclerc-Ouest, à la hauteur de l'autoroute Laurentienne, c'est un débris, mesdames et messieurs, un débris dans la voie de gauche, une échelle. J'ai toujours envie d'avoir des réponses, mais ma job, ça va être de vous dire qu'il y a une échelle.
Une échelle.
Sur Félix Leclerc-Ouest, à la hauteur de l'autoroute Laurentienne, soyez prudents.
Faites juste attention pour ne pas passer sous l'échelle. On va rejoindre à ce moment-ci la co-porte-parole pour Québec solidaire, Mme Ruba Gazal. Mme Gazal, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
Merci, ça fait plaisir.
Avant de parler des bonnes nouvelles concernant le sondage qui appuie vos propositions en termes de logement, Ruba Gaza, j'ai pas le choix de vous poser la question concernant la circonscription de Gouin. On revient en arrière sur la règle qui disait que ce serait seulement des personnes féminines ou non-binaires qui pourraient justement se présenter. Et on ouvre la porte à une candidature masculine, en l'occurrence, qui devrait être Alexandre Boulris. Alors, est-ce que c'était une mauvaise règle ou une mauvaise décision de vos militants de mettre cette règle-là?
Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il faut juste que je vous dise qu'il n'y a pas d'annonce à faire aujourd'hui. C'est une exception à une règle d'avoir des candidatures féminines dans les circonscriptions où c'est des circonscriptions solidaires et que les députés solidaires ne se représentent pas en octobre 2026. Donc, c'était les membres ont décidé d'appuyer, de suivre la direction puis de me suivre quand on a demandé ce qu'ils acceptent qu'il y ait une candidature d'exception, qu'il soit un homme très connu, très aimé, très respecté, d'envergure, de gauche, indépendantiste. Et les membres, largement, ont dit oui, on accepte ça, surtout que ça ne remet pas en question la règle de Québec solidaire qui est la parité. On est les seuls, depuis notre fondation, hein, il n'y a pas une seule élection, on n'a pas eu plus de 50% de candidatures féminines. On est le parti qui en fait le plus pour la parité. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des autres.
Mais est-ce vraiment
difficile pour les femmes d'aller en politique, puis on est les seuls à le faire. Donc, ça ne remet pas en question cette exception que les membres de Québec solidaire ont décidé d'adopter. Ne remet pas en question du tout la parité. Mathématiquement, on reste dans la parité.
Non, ça, je suis très clairement d'accord avec vous que c'est plus dur pour les femmes de se présenter à la politique. Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Je suis un qui le dit sur les ondes de Boulevard 102.1. Mais n'empêche...
On est d'accord.
Ouais, mais n'empêche, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une règle pour exclure les gars pour aller trouver la parité? Parce que là, dans ce cas-ci, on parle d'Alexandre Boulris, on parle de rumeurs, mais t'sais, si cette règle-là existait, exemple, à Taschereau, vous passeriez d'Étienne Grandmont. Si elle existait dans Jean Lesage, on se passerait de votre co-porte-parole Sol Zanetti. Pour moi, ça fait pas de sens.
En fait, c'est que c'est pas une mesure pour exclure. C'est que tout le monde crie et dit ça n'a pas de bon sens, on n'arrive pas à amener des femmes en politique. Mais après ça, ils font absolument rien. C'est ce qui fait que jamais dans l'histoire du Parlement du Québec depuis plus de 150 ans, 160 ans, il n'y a jamais eu 50 % de femmes. Il n'y a jamais eu une majorité de femmes. On est en 2026, là, on n'est pas en Iran, on n'est pas en Afghanistan. Et donc, nous, on prend ça au sérieux, contrairement aux autres qui préfèrent juste s'en plaindre puis ils font rien. Donc, l'idée, c'est d'amener plus de femmes. On prend ça au sérieux, c'est ce qu'on a toujours fait, puis on continue à le faire.
84 % des Québécois vous donnent raison.
85,
pardonnez-moi, vous donne raison en termes de logement, c'est-à-dire de limiter la hausse à l'inflation. Personnellement, je trouve que c'est une très belle mesure que vous avez présentée. Est-ce que ça vous rassure, justement, dans votre prise de position?
Oui, absolument. En même temps, je ne suis pas surprise. Je m'attendais que ça soit haut ou si haut. C'est vraiment... une très bonne nouvelle. Nous, on s'engage à Québec solidaire dans un gouvernement de Québec solidaire de limiter, de geler la hausse des loyers à l'inflation. C'est une mesure raisonnable et très équilibrée dans une situation de crise du logement et un marché totalement déséquilibré. Donc, on a ici la preuve, même les propriétaires en très écrasante majorité sont en faveur parce qu'ils voient la réalité. Les seuls qui la voient pas, c'est le gouvernement de la CAQ. Et j'ai pas entendu le Parti québécois ni le Parti libéral en parler, ni apporter des mesures. Nous, on a apporté beaucoup de mesures. On a même eu des gains, notamment pour protéger les locataires aînés. Honnêtement, M. Fortin, en termes de logement, on dirait que c'est Québec solidaire est au gouvernement.
On voit qu'il y a une crise, assurément. On a juste à aller voir, et c'est aussi stupide que ça, les spotted des villes hein, sur Facebook et tout ça. Il y en a plein qui se confient là-dessus, sur l'augmentation des loyers. Il y en a qui vivent une réelle détresse. Là, on ne parle pas de gens qui chialent pour chialer. Une détresse liée à ça. Cependant, quand ça monte, puis il y a des explications, des fois économiques. Comment est-ce qu'on trouve l'entre-deux là-dedans? Donc, essayer de ne pas faire saigner les poches de nos locataires actuels, mais en même temps, continuer de jouer avec ce qu'on nous demande en tant que locataire aussi, puis eux aussi sont augmentés énormément.
Oui, c'est ça. En fait, la mesure qu'on met de l'avant, permet, en fait, amène le fardeau sur le dos, comme en Ontario, sur le dos des propriétaires, pour que si jamais, ça, ça arrive pas toutes les années, tout le temps, là, moi-même, je suis locataire, hein, fait que il y a pas tout le temps des grosses rénovations qui nécessitent des augmentations, mais quand ça arrive, ben, le propriétaire doit aller au TAL pour justifier la hausse au-dessus de l'inflation. Donc, la règle pour tout le monde, c'est à l'inflation. Il y a quelque chose que tu as fait, des améliorations, tout ça, qui justifie une hausse plus grande que l'inflation, ben il faut aller chercher cet accord-là là, au tribunal administratif du logement. Donc ça, c'est possible en ce moment. On est dans un marché totalement déséquilibré. La crise du logement, c'est pas juste une crise comme ça, c'est une crise sociale. Ça amène aussi à la crise de l'itinérance, à l'angoisse. Des gens travaillent à temps plein, ils peuvent même pas, faut qu'ils coupent dans l'épicerie qui, elle aussi, a augmenté. En ce moment même, là, les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, s'ils sont locataires, ils sont en train de recevoir leurs avis d'augmentation. On a fait un appel là, sur les réseaux sociaux aux citoyens, citoyennes, puis il y a même des propriétaires aussi qui ont dit, ben nous, on fait juste des petites augmentations parce qu'on est capable d'y arriver, puis on voit comment la situation est difficile. Mais il y a des locataires qui reçoivent des augmentations de 10, 20, 30 % Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé de rien faire. Ce qu'il a mis sur pied comme mesure, c'est rien. Ça n'a pas rapport avec la crise. Il reconnaît qu'il y a une crise, mais il décide de pas agir. Donc, nous, on est très heureux. Moi, je suis très heureuse que cette mesure-là soit pas juste la bonne chose à faire, une mesure du gros bon sens dans la crise, mais c'est une mesure aussi populaire. Donc, il faudrait que le gouvernement écoute pas juste Québec solidaire, il faut qu'il écoute la population du Québec.
On parle beaucoup de souveraineté, de référendum ces jours-ci. J'ai une question pour vous concernant l'état du cœur du oui, parce qu'on sent toujours beaucoup d'animosité mutuelle entre Québec solidaire et le Parti québécois. On en a même senti entre le Parti québécois et le Bloc québécois là, l'année passée. Ils ont l'air de s'être réconciliés, mais c'est pas toujours facile, même entre le Bloc et le PQ. Tout ça ne date pas d'hier. Mais s'il y avait un référendum, QS et le Parti québécois feraient partie du même camp. Mais avant d'avoir un référendum, il y a une élection dans laquelle vous êtes des adversaires. C'est quoi, vous, votre vision de comment vous devez gérer votre relation avec les autres partis souverainistes? Comment on fait pour garder un équilibre, pour ne pas trop maganer le camp du oui, finalement, en cas de référendum?
Bien, tu sais, l'indépendance d'un peuple, ça appartient pas à un ou deux partis politiques, ça appartient au peuple et à la société civile. Et moi, je suis très contente de voir qu'il y a une effervescence. Par exemple, les organisations Unies pour l'indépendance, les Oui Québec, qui militent pour l'indépendance des
mouvements. Et vous en parlez beaucoup aussi, vous participez à cette effervescence aussi.
Ah oui, beaucoup. J'ai fait même, j'ai donné une bonne partie de mon augmentation de salaire pour cette organisation-là, parce que je crois que c'est la population qu'il faut, qui va faire ça. Après ça, c'est sûr que ça va prendre, parce qu'on est dans une démocratie, un parti politique indépendantiste qui soit élu, que ce soit Québec solidaire, que ce soit le Parti québécois, qui soit élu, pour après ça mettre le processus en marche. Nous, à chacune des élections depuis la fondation de Québec solidaire en 2006, sans aucune exception, on a toujours promis qu'il va y avoir une assemblée où les gens vont pouvoir participer pour écrire une constitution d'un Québec indépendant. Et à la fin de tout ça, il va y avoir un référendum pour l'indépendance. Moi, ma vision sur l'indépendance, je l'ai beaucoup écrite dans un livre que j'ai publié cet automne qui s'appelle « Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs », une vision d'un Québec inclusif qui ouvre les bras aux immigrants, aux gens qui viennent d'ailleurs, puis qui contribuent à notre économie, mais aussi à notre culture, à notre langue. Il faut que ça soit attractif, le projet d'indépendance.
Mais comment on fait pour travailler avec le Parti québécois dans un contexte où il y a tellement d'animosité entre les deux partis?
Bien, en fait, là, vous dites tellement d'animosité. Je veux dire, après ça, peut-être que sur les réseaux sociaux, c'est toujours négatif. Dans la vraie vie, moi, je me réfère à ce qui s'est passé en 95. En 1995, il y avait l'Action démocratique du Québec, le Parti québécois, le Bloc québécois qui se sont entendus, mais au départ, c'était des adversaires. M. Mario Dumont était un adversaire politique de Jacques Parizeau, puisqu'il était dans un autre parti. Mais après ça, Ils se sont parlé, ils se sont entendus. Et ce qui était très intéressant et très important, puis ça, on n'en parle pas assez, je trouve, il y a eu aussi la société civile. Les syndicats étaient largement dans le mouvement. Le mouvement des femmes avec Françoise David était tout le monde ensemble. Moi, j'aime beaucoup dire que dans le camp du oui en 1995, il y avait et Françoise David, vraiment résolument de gauche féministe, et Mario Dumont, qui était à la tête d'un parti de droite. Donc, c'est possible de le faire. Après, il va y avoir des discussions, des négociations. On n'en est pas là en ce moment. On ne sait pas qui va former le gouvernement. Ça va être les Québécois et Québécoises qui vont décider. Mais moi, ma vision, c'est celle d'ouvrir les bras, d'être le plus inclusif possible et de parler du projet de société. Pourquoi? C'est quoi les raisons fortes pour faire l'indépendance? Parce que les gens, en ce moment, sont inquiets. Et je les comprends d'être inquiets. C'est normal parce qu'il y a une instabilité, notamment économique, avec tout ce qui se passe avec les tarifs de Trump et tout ça. Et il faut être à l'écoute de cette inquiétude-là, y répondre de façon positive pour faire l'indépendance.
Ruben Gazal est co-porte-parole pour Québec solidaire. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je sais que vous avez un après-midi très chargé, donc je vous laisse partir.
Oui, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Ruben Gazal, co-porte-parole de Québec solidaire. Tu sais quoi que les solidaires disent? Pour moi, sont trop ancrés dans leur gauche féministe très... plus placé à l'extrême, je veux pas dire l'extrême gauche, mais beaucoup
non,
plus
c'est
à
pas,
gauche.
C'est pas un parti extrémiste, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que le projet de pays... Moi, je l'ai lu, le livre de Mme Gazal, et je la trouve très sincère dans sa... C'est une vraie souverainiste, puis je trouve ça extraordinaire d'avoir aussi une femme qui est issue de l'immigration, puis qui est porte-étendard pour la souveraineté. Je salue tout ça. Mais c'est vrai que QS est tout le temps en train d'attaquer le PQ, puis PQ est toujours en train d'attaquer QS, puis ce qui risque d'arriver... on le disait tantôt, les libéraux vont gagner. Puis finalement, il n'y en aura pas de référendum.
Ils divisent le vote. Là.
Ben, moi, c'est même pas se diviser le vote. C'est se diviser point. Ouais, à un moment donné, là, quand la fenêtre référendaire ouvre, est-ce qu'on ne devrait pas mettre une trêve? Mm-hmm. C'était un peu ça ma question. Ouais. Elle a préféré mettre sa vision de l'avance et elle est très habile. Puis c'est ça qu'il faut faire quand on veut gagner dans une entrevue. C'est-à-dire on ne répond pas tout à fait à ma question puis on passe son message. Bravo. Mais je reste un peu sur ma faim parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'animosité entre les deux parties. Puis ça passe beaucoup de temps à se picosser.
Bien, en effet. Puis il y a beaucoup d'animosité parce que d'un côté, le PQ dit non, hey, c'est référendum à tout prix. Puis on met des seuils d'immigration et des politiques qui vont à l'encontre de QS. Puis de l'autre côté, ben, tu sais, combien de fois elle nous a répété « Ah, Françoise David dans le camp du oui, le féministe était à l'avant-plan. Ah, » c'est comme si QS détenait le féministe. Tu sais, moi, je vote pas QS, je me considère comme féministe, je fais beaucoup de place aux femmes. Mais pour Ruben Gazal, je suis pas féministe, je suis pas QS.
Oui, bon, tu vois, il y a des degrés là, aussi de féministe, faire de la place aux femmes, puis activement, tous les jours, mettre des règles pour la parité. Tu sais, il y a des degrés, mm-hmm. tout ça. Moi, ce que j'aime moins, c'est quand on met des conditions à l'accession à un statut de pays.
Ben oui.
Tu sais, tout, le féminisme, être de gauche, tout ça, un pays, c'est pas de gauche ou de droite.
Non.
C'est pas, tu sais, on fait le pays, puis après ça, on
fait
des débats
là-dessus.
Ouais.
C'est le boulevard bon, centre 2.
En fait, c'est même pas sur ce, c'est même pas sur ce spectre-là. C'est juste, il devrait pas y avoir... Ouais. On va la faire à la souveraineté si c'est de gauche, mm-hmm. si les syndicats sont impliqués, si... Non, tu sais, moi, pour moi, à un moment donné, il faut y aller, puis après ça, on fait des débats qui s'imposent sur d'autres choses.
Ouais, je te disais ça parce que par texto, c'est ce qui ressort. Là. Hey, QS, c'est censé être le parti des travailleurs, mais il n'y a pas un travailleur qui vote pour eux autres parce qu'on se sent détaché de QS par leur prise de position. Hey, pourquoi QS fait juste me parler de l'identité de genre? Je suis détaché de tout ça, moi, fait que je vote pas pour eux.
C'est la manière dont il en parle aussi. T'sais, quand on exige au lieu de proposer, c'est un tout autre ton. T'sais, toutes les personnes que tu veux dans ta vie ne t'exigent pas quelque chose, ils te proposent mm-hmm. quelque chose, ils te placent à côté d'eux, non derrière eux. Puis parfois, dans le discours de QS, moi, c'est là où je décroche. Puis on a vu des partis, là, même pas prendre pour leurs candidats qui ont tout le courage du monde de se présenter en politique parce que, ah, sont hommes et vous préférez une femme à ce moment-là. Quand on est rendu à voter pour exiger des femmes dans des circonscriptions, c'est peut-être là où on échappe un peu et on exige.
Faut couper la conversation parce qu'on a Laurent Dubreuil qui nous attend sur Zoom. Donc, on fait une courte pause et par la suite, on parle avec le médaillé de bronze au patinage longue vitesse 500 mètres. Laurent Dubreuil qui va nous parler du sous-financement des athlètes. Antonine Iaccarini, merci beaucoup pour ta présence dans l'entrevue avec Ruben Gazal.
Avec plaisir.
Au revoir. On en jase.
bord du Musée de la civilisation pour une traversée rocambolesque inspirée par l'exposition Titanic, récits et destins. Spectacle, école de matelots, jeux questionnaires, ateliers, bricolage, il y a de tout pour tous les moussaillons. Vous allez rire, vous émerveiller, apprendre. Des moments à vivre en famille, ensemble, au Musée de la civilisation. Achetez vos billets sur mcq.org et économisez. Une présentation Hydro-Québec.
Vu chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contact. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier
c'est
immobilier
c'est
Via
le
Capital.
Plus vaste choix de porcelaine importée en ville.
Cette semaine à la Disco Glace, il y a plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. Le samedi 28 février, laissez-vous aimer. Veillé par le spectacle du Club de patinage artistique Sainte-Foy-Sillery Cap-Rouge. Suivi d'ateliers participatifs sur la glace. Le dimanche 1er mars, place à l'animation disco. Pour patiner au rythme de la musique. Que ce soit pour le spectacle ou pour danser sur vos patins, planifiez votre sortie et venez patiner à la Disco Glace. Pour connaître la programmation complète, visitez le discoglace.portquebec.ca.
Depuis plus d'un siècle, Junot et Frères est la référence en peinture et décoration. Du 4 au 8 mars, profitez de 30 % de rabais sur les produits Sico, cuisine, salle de bain, Virtuo, Prestige et Surface Net. Junot et Frères à Québec sur Pierre-Bertrand ou nouvellement à Lévis sur Guillaume Couture.
Boulevard. Il y a une seule façon de partir la web radio de Boulevard 102.1. Tu vas au blvd.fm puis tu pèses sur play.
C'est encore 5 % d'économies qui vous attendent. On prolonge aussi la promo du salon Expo Habitat et on vous offre 6 mois de financement sans intérêt. Wow! C'est le moment pour magasiner votre thermopompe. Enviroconfort, le choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation.
Enviroconfort.com.
Est-ce que vous êtes généreux? Si c'est pas le genre de qualité qu'on vous attribue habituellement, ben peut-être que demain, c'est le temps de faire en sorte que vous le soyez. Pas de lunch, congé de lunch demain. Hein? C'est des fois un peu plate d'avoir cette petite sandwich-là au ballonné dans la boîte à lunch. Donc, on vous amène où? À la fromagerie Victoria. Puis en plus, ben, on vous encourage à manger de la poutine pour être généreux. Là, tu me dis, qu'est-ce que tu me racontes, là? Ben, c'est une bouchée qui fait la différence demain. Jeudi 26 février, donc demain, on va allier plaisir et générosité avec la fromagerie Victoria. Une poutine, c'est un don. Et c'est un bon don. C'est 2 $ par poutine vendue dans les succursales de la région de Québec. Donnacona, Lévis, Saint-Nicolas, Laurier-Station, 2 $ par poutine qui sont directement remis à Telle Écoute Convergence et Telle Aide Québec. C'est des services gratuits, confidentiels qui offrent une écoute qui est active et bienveillante pour toutes les personnes qui ont des moments difficiles, qui vivent de la solitude et encore plus. Donc, chaque poutine que vous mangez demain, ça permet de soutenir une équipe de bénévoles qui sont formés à l'écoute active, à la prévention du suicide aussi et qui aident ceux qui appellent à ventiler leurs émotions et à trouver bon, en eux-mêmes les ressources dont ils disposent puis sinon à les orienter. Ça veut dire que ce soit pour toi, quelqu'un près de toi, que ce soit pour des amis de la famille, ce que tu vas faire demain, soit manger de la poutine, a un lien direct avec l'aide que tu vas amener à ta grande région, aux gens qui en ont besoin, directement pour Telle Écoute, Convergence et Telle Aide Québec. C'est la meilleure poutine qui déborde de fromage en grains, frais, à 100 % lait entier. Ça provient directement des fermes d'ici, dans 5 succursales et dans plusieurs sortes de sauces aussi, parce que ton geste compte, une poutine à la fois. Fromagerie Victoria, demain, on mange de la poutine.
Vous cherchez un logement à Québec ou Lévis? Logis Expert, c'est plus de 4000 logements disponibles. Tous les types, tous les budgets. Avec tous nos projets, on a assurément ce qui vous convient. Visitez logiexpert.com et trouvez votre prochain chez vous.
Une méga vague de fun vous attend aux Galeries de la Capitale pour la relâche. Du 28 février au 8 mars, plongez dans une atmosphère tropicale, mesurez-vous à notre surf mécanique et participez à une foule d'activités gratuites. Une présentation d'Ashton. Détails au galeriesdelacapitale.com. Céramix, c'est le plus vaste choix de porcelaine importée en ville. Format rectifié 24 par 24 à partir d'$1,69 et stratifié à partir d'$1,29. Pour le mois de la réno chez Céramix, venez nous voir en magasin pour faire le plein d'idées. Mise de côté et entre entreposage gratuit. Céramix.ca.
Le Patron Lapin est de retour. Achetez un chocolat de Pâques et courez la chance de gagner un de nos trois prix d'une valeur totale de 5000 $. Chaque lapin vendu soutient les activités du Patro. Croquez pour le Patro et gagnez gros. Détails sur patrolapin.com.
Imaginez magasiner un véhicule sans sortir dans le froid d'hiver. Chez Lévis Ford, nous avons plus de 100 véhicules au sous-sol bien au chaud. Un service humain, une équipe solide, une expérience différente. Lévis Ford, les forts de Lévis.
Plongez dans la jungle avec Papillon en fête chez Jardin Amel, une terre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable de la relâche. Papillon en fête chez Jardin Amel. Ouvert dès vendredi tous les jours de 8h à 17h30.
Gogoun et Doudoun se poursuit les 21 et 22 février et pendant la relâche du 28 février au 8 mars. Venez en profiter en famille. Grimpez l'ours d'escalade propulsé par Weekend, dévaler la glissade de 150 pieds présentée par Pomme, jouez au grand mini-golf, au baby-foot géant, initiez-vous au fat bike et tellement plus. On vous garantit du plaisir et beaucoup de rire. Le Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec, vous attend au quai de l'Espace 400, à la plage hivernale Gogoun et Doudoun.
L'actualité présentée par le Port de Québec qui vous accueille toujours à Port.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
13h12. Si vous pensiez manquer l'entrevue, bien sachez que l'application Boulevard 102.1 est disponible sur App Store et Google Play Store. Vous la téléchargez. Vous pouvez venir nous voir sur twitch.tv/blvd/fm. Il y a la web radio sur blvd.fm. Nos meilleurs moments s'y retrouvent et la prochaine entrevue va s'y retrouver d'ailleurs, Pascal, parce qu'on a la chance, l'incroyable opportunité de parler avec un médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques de Milan Cortina en patinage de vitesse longue piste aux 500 mètres, Laurent Dubreuil. Laurent, merci beaucoup de te rendre disponible pour nous en direct des Pays-Bas.
Ça me fait grand plaisir. Bonjour.
Salut. Laurent, on va commencer en revivant en 13 secondes un montage de Radio-Canada à propos de ta médaille de bronze.
Laurent Dubreuil, médaillé de bronze! Il va être devant en sortie de virage. Maintenant, il doit tout donner dans ce dernier 100 mètres. Aller chercher le meilleur temps provisoire pour Laurent Dubreuil. Oui, 34-26, mission accomplie.
T'entends-tu ça dans ta tête, Laurent, quand t'as gagné ta médaille? T'entends-tu une description comme ça?
Non, j'entends juste le bruit de la foule, puis on est comme un peu dans un état second quand on patine. Il y a une concentration, mais des fois, la course, elle dure 34 secondes, mais des fois, on a l'impression que ça dure 5 secondes. Ça se passe tellement vite, puis là, après ça, on peut y repenser, puis retrouver un peu des trucs que peut-être on n'a pas fait comme il faut, là, mais ça se passe tellement vite, un 500 mètres en patin de vitesse.
Laurent, moi, je fais de l'entraînement physique, puis le lundi, une fois par mois, notre entraîneur, il dit « Hey, on fait des tests de cardio comme pour les athlètes olympiques. » Puis moi, je finis ça, là, je goûte le sang dans ma bouche, j'ai les jambes qui veulent fendre en quatre, puis j'ai fait à peu près 3 minutes de cardio. Toi, quand tu finis un 500 mètres dans le piton en 46 secondes, tu te sens comment?
Un 500 mètres, c'est pas assez long pour que ce soit la douleur totale. Oui, ça fait mal aux jambes. On décélère un petit peu à la fin. Oui, je pogne ma fréquence cardiaque maximale. Là. Moi, c'est presque 190 battements, là, 188 battements par minute. Puis oui, j'ai mal aux jambes après pendant plusieurs minutes. Je suis fatigué, mais c'est rien par rapport au 1000 mètres. Le 1000 mètres, c'est comme ben, tu pars à la même intensité, mais tu as 500 mètres de plus, puis je finis le 500 mètres déjà fatigué. Fait qu'un autre 500 mètres de décélération puis de casse infernale. Puis ça, quand je finis ça, je me demande pourquoi je me suis pas mis à jouer au golf quand j'avais 14 ans à la place de patiner.
Tu dis ça, mais honnêtement, c'est une discipline que tu as fait pour la majorité de ta vie. C'est dur de sortir le sport de l'athlète et l'athlète du sport veut pas à un moment ou à un autre. C'est pas tes premiers Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu retiens de ceux-ci, malgré bon, ce qu'on va déplorer dans quelques minutes?
Ben, pour moi, ça a été des Olympiques magiques. J'avais gagné une médaille il y a 4 ans également. C'était au 1000 mètres, la distance que je viens de vanter, dont je viens de vanter les mérites. Mais je suis un meilleur patineur de 500 que de 1000 mètres, assurément. Si on regarde ma carrière, j'ai gagné 90% de mes médailles aux 500 mètres. Puis de ne pas avoir de médaille olympique aux 500 mètres, ça faisait 4 ans que ça me gossait, là, vraiment. Là. Au dernier jeu, j'avais fini 4e. Puis que ça a été un 4 ans de temps à essayer de m'entraîner pour continuer à m'améliorer pour avoir une chance de un petit peu me reprendre sur la course que j'aurais voulu mieux faire il y a 4 ans. Donc, d'être capable de faire ça à mon âge, j'étais le plus vieux médaillé olympique aux 500 depuis 98 ans. Fait que c'est une distance de jeune. Donc, c'était valorisant d'être capable de rivaliser. J'étais littéralement le plus vieux sur la ligne aux 500 mètres de toutes les gosses olympiques. Donc, d'être capable d'être le doyen de... Wow. De la distance, mais d'être encore assez bon pour gagner des médailles, c'est une grande fierté.
Ouais, à 33 ans, Laurent Dubreuil qui remporte une médaille de bronze. On parle justement avec le médaillé de bronze, Laurent Dubreuil, aux 500 mètres des derniers Jeux olympiques à Milan-Cortina. Laurent, il faut absolument parler du sous-financement des athlètes et c'est la raison pourquoi je tenais à te parler parce que je suis tombé à la renverse hier matin quand j'ai lu ta chronique et que j'ai appris qu'après être médaillé de bronze, après avoir représenté fièrement le Canada, après que tous nos politiciens se soient appropriés ton succès, ben toi, tu as payé ton billet d'avion d'Italie aux Pays-Bas pour aller compétitionner aux championnats du monde parce que le Canada t'aide avec 0$.
Non, exact. Je reste chez des amis d'ailleurs pour diminuer les coûts versus rester à l'hôtel comme tous les patinants de tous les autres pays font. Normalement, il y a un hôtel désigné pour la compétition. C'est une triste réalité de notre situation comme athlète canadien. En plus, moi, en patin, on est une des fédérations les plus soutenues par les gouvernements parce qu'on gagne beaucoup de médailles. On est bon en patin de vitesse, en plus. On a 5 médailles aux Olympiques, là, juste en longue piste, 5 médailles en courte piste. Ça fait 10. C'est la moitié des médailles du pays pour notre fédération. Ça pourrait être vraiment pire. C'est ça, le pire. Donc, j'ai pas fait cette sortie-là pour... avoir de la pitié. J'ai pas fait cette sortie-là pour qu'on parle de moi. J'ai fait cette sortie-là pour essayer d'aider les athlètes canadiens qui souffrent puis qui ont de la difficulté à arriver puis qui ont de la difficulté à s'entraîner. Ouais. Puis après ça, on s'attend à ce qu'ils gagnent des médailles quand ils n'ont pas le soutien qu'ils méritent. Donc, c'est un peu triste, en effet, comme situation.
Tu ne réponds pas si tu ne veux pas. Ça se peut que ça soit un peu intrusif, mais c'est souvent une question qui arrive avec un peu d'information comme quoi c'est dur être un athlète ou une athlète. Notamment, il faut aller chercher des commanditaires, il faut se vendre, il faut avoir quelque chose à vendre. Des fois, c'est juste la représentation sur des t-shirts ou des casquettes, ou bon, tu comprends, tu deviens un peu une pancarte, mais c'est ce qui t'aide, puis tu remercies toujours les gens qui sont derrière toi. Parce que le salaire annuel sans commandite, ça ressemble à quoi? Officiellement, tu dois tout brûler probablement juste dans les transports?
Bien, c'est ça. Si tu es au plus haut niveau d'équipe nationale, c'est pareil à travers tous les sports, puis c'est de l'information publique, fait que même si ça finit par être mon salaire, je ne suis pas gêné de le dire, c'est facile si on peut le trouver sur Internet. C'est à peu près 28 000 du gouvernement fédéral puis 10 000 du gouvernement du Québec.
Alors, on est à 38 000.
On est chanceux d'être au Québec parce qu'il y a des provinces qui donnent strictement rien en plus, fait que ça pourrait être pire encore une fois. Mais en effet, comme contrairement à plein de gens, moi, il faut que je réinvestisse une partie de ça dans mon sport. Là. Mon épouse est enseignante. En fait, c'est peut-être un mauvais exemple. Les enseignants, ils dépensent pour leur classe aussi. Là. Mais... la plupart des gens n'ont pas besoin de dépenser leur salaire pour s'acheter des trucs. Tu sais, ton ordi, peut-être souvent, il est fourni par ton travail ton équipement spécialisé. Nous, moi, il faut que j'achète mes patins, il faut que j'achète mon équipement, il faut que je paye des compétitions, il faut que je paye des camps d'entraînement, il faut que je paye de la nourriture, des méthodes de récupération, des fois des spécialistes de physiothérapie. Peu importe, les athlètes ont à dépenser pour leur sport. Donc, il y a une bonne partie de cet argent-là, une bonne partie dépendant quel sport, des sports plus chers que d'autres, mais qu'on réinvestit, mais on dépense. Là, on dit réinvestir, c'est un beau terme pour dire dépenser, mais c'est pas tout l'argent qu'on peut mettre dans le compte de banque qu'on peut utiliser pour la vie de tous les jours.
Fait que là, Laurent, on souhaiterait qu'à 38 000 $ par année, tu sois capable d'avoir les meilleurs entraîneurs, les meilleurs physios, le meilleur équipement, puis que tu sois capable de faire le tour de la planète pour compétitionner pendant 4 ans pour te préparer pour une médaille olympique. C'est ce que tu es en train de me dire.
Oui, mais il y a des sports qui... Comme je disais, nous, le patin de vitesse, ça va relativement bien hein, quand on se compare, on se console, parce que nous, la plupart des compétitions sont payées. Là, ce championnat du monde-là ne l'est pas. Il y a deux ou trois compétitions par année qu'il faut payer, mais la plupart des Coupes du monde sont payées. Mon entraîneur, c'est l'entraîneur national, fait que j'ai pas besoin de payer ça. Fait que, tu sais, c'est pas si pire comme athlète de patin, mais comme je dis, j'ai pas fait cette sortie-là pour parler de moi. Il y a des sports dans lesquels il faut qu'ils payent tout avec ça, là. Il y a des sports que ton frais d'athlète, c'est-à-dire un montant que la Fédération nationale te demande pour intégrer l'équipe. Nous, en patin, c'est 800 $. Encore une fois, moi, je donne 800 $ un peu à mon employeur pour avoir le droit de travailler. Là. C'est un peu débile.
Oui, c'est ça. Je vais faire ça. Je vais prendre 800 $ de mon salaire puis je vais aller le porter à mon patron en disant « Hey, merci de me donner le droit de faire de la radio.
» Mais il y a des sports dans lesquels, attachez votre tuc, mais il y a des sports dans lesquels le frais d'athlète, c'est 30 000 $. Ça, c'est pour avoir le droit de faire la série de Coupe du monde, mais il faut que tu te classes. Là. C'est pas, mais après ça, comment qu'on espère être bon si essentiellement on empêche 90% ou 95% de la population de même pouvoir penser faire ce sport-là? C'est rendu un sport de riche. Là.
Ben, juste,
moi, j'aurais pas pu me permettre ça quand j'étais jeune là, de, de payer 30 000, ben en fait, je pourrais pas encore maintenant. Là, ça serait
ben,
pas
avec 38 000, c'est sûr que là, rendu là, il te reste 8 000 pour le reste de ton année puis tu n'as rien payé d'autre. Mais tu sais, il y en a qui vont se dire ben, alors pourquoi vous êtes athlète? Pourquoi vous continuez dans cette branche-là? Assurément, les commanditaires vous aident. Mais à quel point c'est difficile de se vendre en 2026 en tant qu'athlète olympique aux 4 ans qui peut performer, tiens?
Ben, c'est toujours un défi. C'est pas quelque chose que j'aime faire. C'est pour ça que plusieurs athlètes ont un agent. J'ai la chance d'avoir deux commanditaires solides qui m'aident depuis quelques années, dont un au Québec que je salue, Transport Morneau. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que si tu n'as pas de contact, c'est difficile de se vendre. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent m'écrire un message, ça va me faire plaisir de vous parler, mais... C'est triste qu'on en soit là parce qu'au final, ça devient, tu deviens un peu, tu dois diversifier un peu tes activités. Il faut que je devienne quasiment un peu influenceur si je veux devenir. Mais tu sais, moi, mon travail, ma passion, c'est de patiner. Là.
On
moi,
en voit sur OnlyFans aussi. Là. On voit des athlètes plutôt féminines parce que bon, c'est bizarre, ça fait plus vendre parfois. Mais il y en a aussi qui se sont affichés sur OnlyFans des athlètes olympiques dans les dernières années. Là.
Exact. Puis si je veux dire... Je pense pas qu'ils, quand il y avait 10 ans, ils ont commencé à faire un sport et ils rêvaient d'être sur OnlyFans pour avoir à faire leur sport. Là. Ah, notre passion, ça. À la base, c'est d'être des athlètes. Là. Puis c'est un peu triste qu'on soit un peu laissé de côté et qu'on n'ait juste pas les ressources pour le faire. Parce qu'au final, on représente notre pays puis on fait rêver la génération future. Là. Moi, quand je donne une conférence dans des écoles, là, les yeux, j'y vois les yeux briller des enfants qui m'écoutent parler puis qui voient la médaille. Puis je suis sûr qu'il y en a qui s'inscrivent. Pas au patin, c'est pas ça mon but, mais il y en a qui vont aller bouger un peu à cause de ça. Ça fait une différence pour le futur à investir en sport.
C'est clair, vous êtes des modèles et puis que ce soit n'importe quel sport confondu. Puis, tu sais, moi, j'ai deux enfants, ils sont rendus à 18 et 16 ans. Ils écoutent les Jeux Olympiques avec moi depuis leur jeune âge. Puis aux Jeux Olympiques, là, quand ils étaient plus jeunes dans la neige, là, ils me faisaient toutes les compétitions une après l'autre avec leur podium de médaille. Là. Donc, ils essayaient tout d'un coup. Laurent, je termine l'entrevue en te posant cette question-là. Est-ce que ça se monnaie une médaille? T'sais, comme toi, tu as une médaille de bronze. T'sais, ça vaut quoi en termes de commanditaire? Tu peux-tu la monnayer en raison de la visibilité?
Oui, un peu. Pas autant qu'on pense. Vraiment pas autant que les gens pensent. C'est assez éphémère comme moment de gloire. On passe rapidement à autre chose. Puis autant nous que le monde en général, on parle beaucoup des Olympiques. Dans 3 semaines, on n'en parlera plus. Dans 2 semaines, on n'en parlera plus
en
des
effet.
Olympiques. Puis, il va y avoir autre chose. Il va y avoir le hockey de la NH va avoir recommencé. Puis on va reparler d'une autre affaire.
C'est frustrant ça pour un athlète comme toi, médaillé, double médaillé olympique, qui voit que Nick Suzuki va toujours passer en avant de lui à Montréal puis au Québec?
Je me compare pas aux joueurs de hockey. Au final, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Ce sont des excellents athlètes. Ils ont choisi un sport qui, au final, était plus populaire où ce que nous, on habite. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu l'offre et la demande. Les gens payent pour aller voir du hockey, puis c'est correct. Par contre, on est dans une situation particulière où moi... Je représente le Canada. C'est pour ça qu'on lance un peu un appel à l'aide au pays. C'est parce que nous, on est des représentants, un peu des ambassadeurs quasiment du Canada, si on veut. On représente le pays à l'international. On fait vibrer le pays. La Norvège, sont-ils fiers en ce moment, tu penses, avec quand il y a une médaille olympique? Là, ils ont un sentiment de fierté nationale incroyable. Tandis que nous, on déplore nos 21 médailles, ce qui est déjà bon d'ailleurs, 21 médailles, on ne fait pas pitié, mais on déplore nos 21 médailles parce qu'on en a déjà gagné plus, mais si on ne se donne pas les outils pour en gagner plus, à un moment donné, les athlètes, ils font de leur mieux, je vous le garantis. Là. On a des athlètes, j'invite les gens à venir nous voir s'entraîner. Là. On s'entraîne 2 fois par jour, 6 jours semaine à l'année longue. Là. Les gens ne peuvent pas s'entraîner plus fort, ça prend juste plus de ressources.
Laurent Dubreuil, merci infiniment pour le temps que tu as passé avec nous à Boulevard 101 aujourd'hui. Je te remercie de t'être branché en direct des Pays-Bas et sache qu'on va faire circuler ton message. Ça prend du meilleur financement pour nos athlètes ici au Canada et au Québec.
Merci beaucoup, bonne journée.
Salut Laurent, bonne journée. C'était Laurent Dubreuil, médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques de Milan-Cortina. Franchement, ça prend nécessairement un meilleur financement pour ces athlètes-là. C'est fou les sacrifices qu'ils doivent faire. Parlant de sacrifices, Pascal, il y a un peuple qui en fait un depuis 4 ans et c'est le peuple ukrainien.
Oui, puis on va en parler dans quelques minutes, je pense. On va faire un compte-rendu des 4 dernières années, soit de tout le conflit. Mm-hmm. En l'espace de 5 à 6 minutes, on va résumer ça. Là, dites pas que c'est grossier, c'est pas vulgaire quand même.
Non.
C'est juste pour se rappeler par où on est passé dans tout ça.
Exactement, parce que ça l'a fait 4 ans hier que la Russie envahissait l'Ukraine. On va parler de ceci après cette courte pause. Mais avant, Pascal, est-ce qu'on fait quelques manchettes d'actualité?
Faut en parler parce que Saint-Nicolas s'est mis sur la carte aujourd'hui avec l'actualité. Pourquoi? Débordement à l'usine d'épuration. C'est simple et problématique en même temps. Donc, c'est un grave problème, dit le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs Benoît Charette, parce que dans cette municipalité-là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a une possibilité de traiter des eaux usées pour 85 % de ce qu'on reçoit. Donc, on rejette 15 % des eaux usées excédentaires directement dans le fleuve. Et ça, c'est une problématique qui perdure. Mmh. Et avant de développer de nouveaux secteurs, on dit qu'il faudrait peut-être gérer ce genre de choses-là. Rendement de 9,3 % pour la Caisse en 2025. Donc, l'actif de l'institution qui a franchi la barre des 500 milliards de dollars. Important à dire dans cette année économique assez difficile, c'est 4 des 5 portefeuilles de l'institution qui ont eu un rendement en deçà de celui de leur indice. Charles Millière a fait l'actualité, le chef du Parti libéral. Il affirme être le seul à avoir un permis de conduire pour être au volant, c'est une image, de l'autobus du camp du non. Et il dit, si d'aventure, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, remporte les élections, c'est pas lui qui peut porter le camp du non. À 8 mois du scrutin, on est vraiment en branle-bas de combat pour s'arracher un peu la couverte de l'électorat. Et si vous étiez caché dans une grotte, vous n'étiez pas au courant que Donald Trump hier a fait un discours de l'État, de l'État de l'Union. Ovation, pancarte et poignée de main, ça, c'est pour sa base.
USA, ouais. USA.
Comme d'habitude, Donald Trump a fait du Donald Trump. Alors, il y a certaines choses qu'on peut mentionner, entre autres la présence d'une pancarte. Les Noirs ne sont pas des singes. Pancarte militante, vous comprenez, qui fait une référence explicite à une vidéo sur Barack et Michelle Obama. Sinon, on a ovationné les hockeyeurs qui ont gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques, alors les hockeyeurs américains. Il y a eu des poignées de main avec un peu tout le monde, mais il y a aussi eu beaucoup de mensonges. Et c'est ce qui ressort énormément. Encore une fois, on a focusé sur économie, matière internationale, mais Donald Trump, pendant 1h47, a tissé toute une toile de mensonges et malheureusement, c'est ce qui en ressort.
Exactement. Pour ceux qui croyaient que l'inflation était à 1,7 % aux États-Unis comme Donald Trump, ça a été 2,7 % dans la dernière année. Dossier historique de Pascal CV sur la guerre en Ukraine dans un instant à Boulevard 101, l'émission L'en jase.
On en jase.
13h33 minutes, vous êtes à l'émission On en jase, votre émission du midi sur Boulevard 102.1. On décortique l'actualité et on vous informe avec les nouvelles fraîches. Et également, on vous parle de dossiers très importants. C'est d'ailleurs ce qu'on va parler avec Pascal Cévé dans quelques instants. Parce que malheureusement, c'est les 4 ans de la guerre en Ukraine. C'était ce triste anniversaire hier. À la météo, je vous rappelle, c'est de la neige intermittente. Il a arrêté de neiger ici à Le Bourgneuf. Est-ce qu'il neige ailleurs? Textez-nous. 418-971-1021. C'est moins 6 degrés, moins 3 degrés demain avec des averses de neige. Donc, la journée devrait ressembler à celle d'aujourd'hui. Moins 4 alternances de soleil et nuages pour vendredi. Pascal, est-ce que ça s'est résorbé un peu à la circulation?
Ça a changé, en fait. Ça s'est transposé ailleurs. Je vais le dire, parce que c'est sûr, les conditions de neige,
Bon,
c'est pas tout le monde qui aime ça et tout ça. On avait un accident du côté de la première avenue vers Félix-Leclerc-Est. C'était partiellement entravé, donc on a procédé au remorquage et tout ça. Ça a bloqué un peu le secteur, il y a peut-être 20 minutes. Il y en avait un autre, lui est toujours en cours, c'est celui sur la bretelle de l'autoroute 40 Est vers l'autoroute du Plessis Sud, c'est partiellement entravé. Il y avait une sortie de route, mais les services d'urgence sont sur place. Je dois aussi dire que le du Plessis Nord, fermeture de l'accès par chemin des Quatre Bourgeois, c'est par l'avenue de Bourgogne. Il y a un bris d'aqueduc. Et l'accès du boulevard Wilfrid Hamel vers Henri IV Sud, c'est partiellement entravé. Il y a une panne. Alors, tu vois, ça grouille un peu partout.
Oh, oui.
Et parlant de réseau routier, on a reçu un texto. Et ça me ramène à il y a quelques années où c'était une grande tendance TikTok. Puis là, je te parle pas de manger des pocs de lavage. Là. Je t'en parle d'une autre qui est encore plus inquiétante, dans le sens où tu peux pas t'en attendre. Tu sais, la poque de lavage, t'en manges, t'as choisi.
Non, c'est
on ça. On conseille à personne.
Tu choisis les conséquences.
Mais si t'embarques dans ta voiture, tu ouvres le moteur, puis tu prends la route, puis tes roues se dévissent sur l'autoroute, c'est une autre chose.
Mais ça...
Il y a un auditeur qui nous a écrit qui voulait nous prévenir qu'il y a des jeunes qui dévissent des roues de voiture, encore pour un défi TikTok à la con, on précise. Ça lui est arrivé vendredi. Et encore hier, il a appelé le garage X et il a dit qu'il y a eu plusieurs signalements ces derniers temps dans la ville de Québec. Et lui, du côté de Loretteville. Donc, faites vraiment attention. Vous pourriez être malheureusement ciblé par ces jeunes-là. Modus operandi qui est de venir dévisser vos roues là, pendant la nuit où vous ne le savez pas trop. Et c'est souvent la roue gauche parce que c'est la roue avant-gauche ou la roue avant-arrière qui est souvent visée. C'est ce qu'on voit au niveau du garage puis de la personne qui a été leurrée là-dedans.
Alors, surveillez vos pneus à la sortie avant de partir avec votre véhicule pour pas qu'il vous arrive un événement majeur.
Ça devrait être criminel, dit Steve. Ben oui. Je me demande si ça peut pas l'être là, si on a des preuves. Là.
Exactement. Événement, parlant d'événements majeurs, bien hier, on fêtait le triste anniversaire des 4 ans de l'invasion de la Russie en Ukraine. Une invasion qui était censée se faire en 3-4 jours et le sort de l'Ukraine était réglé. Mais on le sait, les Ukrainiens démontrent une résilience exceptionnelle. Et Pascal, tu voulais nous refaire le fil de l'événement, justement, qui est depuis le début de cette guerre-là.
On revient le 24 février 2022. Alors, effectivement, on retourne d'il y a 4 ans, invasion à grande échelle, invasion qui avait été même sous-estimée par les experts en se disant « Vladimir Poutine, qui est à la tête de la Russie, n'aura jamais les couilles de faire ça, de venir envahir l'Ukraine. » On entendait, on croyait aux menaces et les
passes à exécution. Amené des militaires à la frontière, on les avait ramenés du côté des Russes. On jouait à ce jeu-là de va-et-vient depuis quelques mois.
Et c'est pendant la nuit que ça s'est produit, donc autour de 4 heures du matin, c'était une vaste invasion de l'Ukraine. On attaquait sur plusieurs fronts, dont la capitale Kiev, événement qui a bouleversé l'équilibre sécuritaire aussi en Europe. Et là, quand je te dis, c'était partout. Reprends la carte de l'Ukraine et tu vois que c'était des fronts qui avaient été méticuleusement calculés, autant dans les airs que sur le sol. Je vous ramène à la prise de parole de Vladimir Poutine en pleine nuit.
J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues.
Alors, Pascal, à ce moment-là, on dit que l'Ukraine est un pays nazi, que, autrement dit, c'est une dictature qui est installée là-bas avec Vladimir Zelensky. Et là, bien, on menace clairement le monde entier en disant « Vous n'intervenez pas là, sinon on va vous attaquer. »
C'était extrêmement tendu et tout le monde avait peur, finalement, de Vladimir Poutine sans l'admettre. Il faisait peut-être un peu au bout des lèvres parce qu'on se disait « Si on le choque, qu'est-ce qui nous arrive à nous par la suite? » On voulait pas attiser le démon en Vladimir Poutine à ce moment-là. On parlait d'une opération militaire spéciale, il l'a dit pour lui-même, pour protéger les russophones et contrer l'OTAN. Clairement, à ce moment-là, on visait les deux. Volodymyr Zelensky dénonçait, lui, une agression illégale et appelait à la résistance nationale. On était le 24 février 2022. Sur quoi le conflit a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Ça a commencé à être un conflit que tout le monde souhaitait se mêler, pas nécessairement au niveau militaire présentiel, mais un peu pour tout ce qui était social et discussion internationale. Il y avait une résistance ukrainienne que même Vladimir Poutine n'avait pas vu venir. Hein. On résistait du côté de l'Ukraine avec beaucoup moins de ressources que Poutine et sa gang. Alors, il y a eu un certain recul russe quelques semaines après. L'Ukraine a freiné l'offensive contre Kiev. On a repris des territoires, même dans des régions. Et à l'automne 2022, on tenait bon. Donc, Kiev tenait. Il y avait des contre-offensives dans l'État et dans l'Est et dans le Sud. Poutine affirmait par contre que les objectifs étaient atteints. Bien sûr, il y avait un peu un discours à la Donald Trump.
Ouais,
bien.
Exactement. Il l'a encore 4 ans plus tard. Là.
Il l'a encore même un peu...
Il a révisé ses positions. C'était juste l'Est de l'Ukraine qu'on voulait prendre.
Très bien dit. Et Zelensky incarnait, rappelez-vous, la mobilisation. Hein? On renforçait l'appui occidental. On disait où il se tient. Il est parmi les siens. Il est resté même au sein de ses troupes militaires. On le voyait comme courageux.
En habit de guerre.
Exactement.
A pas quitté le pays. Est allé à la Maison-Blanche plusieurs fois alors que c'était Joe Biden, le président des États-Unis.
Toujours en 2022, la Russie a déclaré par elle-même qu'elle annexait 4 régions ukrainiennes. c'était son choix de le dire. Personne ne le reconnaissait, ni la communauté internationale, ni même les citoyens ukrainiens et encore les citoyens du côté de la Russie, mais on revendiquait quatre régions. Poutine parlait de réunification historique et Zelensky rejetait toute négociation sur les territoires occupés qui était franchement difficile à vivre pour les citoyens ukrainiens.
Vraiment.
On peut entendre des discours.
Tout est détruit. Non, moi je dis que Poutine a du sang sur les mains.
Puis à l'étage en dessous, un adolescent est mort. Il avait 16 ans.
On est des patriotes. J'emmène mes enfants loin d'ici, mais je vais revenir pour me battre. L'Ukraine vaincra. Quel monstre ce Poutine. Qu'il aille au diable.
C'était une guerre d'usure. On se disait, ben, on va continuer. Puis à un moment donné, les Ukrainiens vont s'appleventir. Le conflit s'enlisait. On est en 2023. Les frappes russes ciblaient des infrastructures énergétiques très importantes. Je te rappelle, on a détruit un barrage, le barrage de Kakhovka, le 6 juin 2023. On a fait sauter ce barrage-là. Ça a été construit en 1950. C'était une entité importante. Donc, on a détruit la centrale hydroélectrique et ça nuit énormément à tout ce qui était approvisionnement. On a inondé des secteurs, des villes complètes, encore beaucoup de morts et surtout nuit à l'alimentaire, tout ce qui était agroalimentaire. Alors, on coupait les vives de ces habitants-là.
On bloquait les bateaux qui partaient avec le blé.
Mais on tenait bon du côté de l'Ukraine, mais ça a provoqué des pannes massives et même une pression humanitaire. Là, on ne voulait pas juste aider militairement, on avait à être aidé humanitairement. Et l'aide militaire occidentale, s'est intensifiée, donc ça a un petit peu fâché Vladimir Poutine, disons-le. On a été extrêmement surpris par des drones qui ont réussi à atteindre Moscou. Plus de 300 drones qui ont été repérés, des frappes qui ont touché la banlieue sud de Moscou. Et ça, Vladimir Poutine n'a pas voulu en parler. Malheureusement, ça a causé des décès civils. Mais on était un peu au moment en disant « Oh, peut-être que la Russie s'est dit si forte pendant de nombreuses années qu'elle nous a fait extrêmement peur, mais qu'elle est moins organisée. » Le Kremlin misait sur l'OTAN, l'essoufflement occidental, puis Kiev réclamait plus d'armes, puis maintenait une certaine victoire possible. Je termine avec les dernières années, donc 2024, 2025 jusqu'à maintenant. La ligne de front, on en parlait hier, peut bouger. Les pertes humaines sont lourdes. Par exemple, des deux côtés, si je vous parle des statistiques, pour la Russie, environ 1,2 million de pertes. Alors, jusqu'à 325 000 morts militaires. Pour l'Ukraine, environ 500 000, 600 000 pertes militaires, dont environ 100 000 à 140 000 morts. C'est estimé, mais il nous manque encore de l'information pour être certain. Donc, au total, juste en morts militaires, on est entre 200 000 et 465 000 personnes, tous côtés confondus. Mais les marges d'erreur sont assez grandes. Le front, comme je te disais, relativement figé, lourd de pertes. Poutine présente le conflit comme existentiel pour la Russie. Si on ne gagne pas, on est en train de se détruire. Fait qu'il y a des fervents encore là qui décident de s'accrocher. Puis Zelensky, lui, en ce moment, parle d'une guerre pour la survie et l'avenir démocratique de l'Ukraine, mais aussi mondiale. Et on écoute son dernier discours dans les dernières heures avec Céline Galipo.
For civilians, it's the biggest challenge, of course. The energy attacks, massive attacks by drones and cruise missiles and ballistic. You know that more than 500 drones we had during one attack. One night plus some dozens of missiles. This is the biggest challenge now, and we are sure that Putin doesn't want to stop. That's why we think that maybe we will have attacks on our water supplies, water infrastructure. Maybe in spring, maybe in summer, we will see.
En résumé grossier, on parle vraiment des attaques qui ont été faites sur les besoins essentiels de la communauté, qui est encore le plus grand des défis pour la communauté ukrainienne. On ne parle pas des forces militaires, on parle des attentats qui sont faits contre les besoins essentiels. Et tu vois ça, on en parle souvent comme étant la suite pour la guerre qu'on pourrait avoir dans les prochaines années. Si jamais guerre se déclare encore et encore sur d'autres territoires, souvent on va viser la technologie et les ressources de base pour les habitants.
Exactement. Et malheureusement, c'est un conflit qui ne semble pas vouloir se terminer parce que les négociations de paix sont très difficiles à l'heure actuelle entre l'Ukraine et la Russie. La Russie qui veut prendre des territoires ukrainiens, l'Ukraine qui refuse. Pascal CV, c'était vraiment plaisant comme dossier. Merci beaucoup, beaucoup,
merci
beaucoup.
À vous.
Après cette courte pause à Boulevard 102.1, on parle avec Alicia Despins de la problématique des eaux usées à Lévis. Et shit, Est-ce que Lévy va devoir payer un gros montant au gouvernement et à ses entrepreneurs? On en parle après la pause.
Des 400% électriques est à 0% pour 60 mois avec 5 000 $ en boni.
Wow! Ben non, mais c'était parfait, là. Comment tu l'as dit? Je veux dire, ça devrait être ça, la pub, là. T'as-tu déjà été actrice?
Ben, j'ai fait un peu de théâtre au primaire.
Puis t'as arrêté?
Ouais.
Financez l'ID4 à partir de 0% pour 60 mois et obtenez 5 000 $ en boni 100% électrique et 2 000 $ en rabais provincial. Faites vite, l'offre prend fin le 2 mars 2026. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez les concessionnaires Volkswagen participants.
Savais-tu qu'en étant membre CAA, en plus de l'assistance routière, t'obtiens jusqu'à 25 % de rabais en assurance auto et habitation?
Fait que t'es en train de me dire qu'en devenant membre, CAA pourrait me sortir d'un banc de neige, puis en plus, j'économiserais sur mes assurances?
Ben, t'as tout compris. On fait les deux.
Ah, ça tombe bien, parce que là, je suis pris dans un banc de neige, puis je suis un gros fan d'économie.
Ah, y a rien qui arrive pour rien.
Ah, jamais je pensais que prendre le clos allait me faire économiser.
T'as accès au rabais même si tu prends pas le clos, hein?
Ah ben, c'est bon à savoir.
Pour vos assurances et pour l'assistance routière, devenez membre CAA Québec.
Envie d'un été actif et rempli de plaisir? Les inscriptions sont maintenant ouvertes au Deck Hockey de la Capitale, Ligue Junior et Ligue Adulte. Deux complexes pour jouer tout l'été à Chauveau et à Saint-Augustin.
Inscrivez-vous dès maintenant au ddlc.ca.
Pour une relâche magique en famille, plongez dans l'univers fantastique de Beefly. Découvrez des papillons aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec notre mini-golf fluo 3D et osez traverser notre labyrinthe de miroirs où illusions et réalité se confondent. Une sortie inoubliable aux Galeries de la Capitale. Faites vite, Beefly fermera ses portes le 16 mars 2026. Réservez maintenant au beefly.ca, B-F-L-Y.ca.
Saviez-vous que Toronto fait partie des destinations accessibles par vol direct depuis Québec parmi plus de 35 destinations? Voler de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, c'est simple. Peu de fils, courte marche et aérogare moderne. Visitez décollerdequebec.ca ou parlez-en à votre conseiller en voyage.
Le Sila, wow! Entre ville et nature, situé à Saint-Romuald et à 2 minutes des ponts, vous serez charmé. Près du parc La Relâche et de tous les services, les Sila 1, 2 et 3 n'attendent que vous. Promotion jusqu'à 2 mois gratuits. Informez-vous. Info à commercial. Silalevi.ca.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Les services Internet et télévision de la CCAP sont maintenant disponibles à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Profitez d'une connexion fiable et locale et faites confiance à une coopérative avec plus de 40 ans d'expertise en télécom. Soumission gratuite au ccapcable.com.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez Miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Le Patron Lapin est de retour. Achetez un chocolat de Pâques et courez la chance de gagner un de nos 3 prix d'une valeur totale de 5 000 $. Chaque lapin vendu soutient les activités du Patro. Croquez pour le Patro et gagnez gros. Détails sur patrolapin.com.
Imaginez magasiner un véhicule sans sortir dans le froid d'hiver. Chez Lévis Ford, nous avons plus de 100 véhicules au sous-sol bien au chaud. Un service humain, une équipe solide, une expérience différente. Lévis Ford, les forts de Lévis.
On en jase à Boulevard 102.1. Les gros dossiers du jour, ce qui se passe dans... On en jase.
Je préviens, on jase.
13h49, minutes, l'émission On en jase tire à sa fin. C'est le retour de Gravel avec Denis, Audrey et Véro qui prennent la suite de 14h à 18h et Marceau le soir, ce soir à 18h. On aime jaser de notre ville, mais on aime jaser de nos voisins aussi. Et ça va pas très bien chez nos voisins de Lévis à l'heure actuelle. Alors pour en parler puis pour se démêler là-dedans sur toutes ces poursuites-là, Pascal, on va aller chercher notre experte en politique municipale, c'est-à-dire Alicia Despins. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien.
Alicia, Lévis, vas-tu devoir payer le gros mouton à coût de 30-40 millions de dollars pour se sortir du bourbier dans lequel Gilles Laulier les a amenés?
C'est pas mal la question qu'il faut se poser, la question que tout le monde se pose. Je pense que c'est aussi la question que la ville de Lévis se pose en ce moment. Évidemment, je suis pas juriste, je suis pas avocate, fait que je peux pas prédire, là, je peux pas vous donner d'opinion juridique là-dessus. Par contre, la direction des affaires juridiques de la ville de Lévis a l'air de trouver que sa cause à elle est pas mal mince, elle est pas mal fragile. Est-ce que la ville de Lévis va devoir payer le 31 millions ou est-ce qu'elle va devoir payer au moins une portion de ça? À quel point elle peut gagner ou perdre ces causes-là? Puis des fois, les tribunaux, ils disent « oui, on vous déclare coupable, mais l'amende ou en tout cas le montant à payer, c'est pas le plein montant qui était demandé. » Fait que ça peut être n'importe quoi entre 0 et 31 millions. C'est à peu près ça la réponse. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une mauvaise planification. Puis Serge Bonin, le chef de l'opposition, le rappelle de manière très pertinente, 31 millions, c'est presque 10 % du compte de taxes. C'est pas rien. Là. Fait que ça veut pas dire que la ville va perdre toutes ses causes demain matin. Ça ne veut pas dire qu'elle va devoir payer ça. Ça veut juste dire que c'est inquiétant d'un point de vue financier et qu'il faut qu'elle planifie en conséquence. Là, ça, c'est certain.
Dire que c'est inquiétant d'un point de vue financier, c'est assuré, mais c'est quoi les impacts concrets sur des citoyens?
Bien, c'est ça. C'est parce que l'enjeu, c'est qu'il y en a des impacts concrets. Là. C'est une ville, elle donne des services à ses citoyens. Donc, moi, être un citoyen à Lévis, en ce moment, je me dis, oh, là, il y a une incertitude pour mon compte de taxes, là, du moins à moyen, long terme. Parce que, outre les montants à payer ou à potentiellement payer, il y a aussi le spectre de potentiels contraventions de la part du ministère de l'Environnement et les investissements à mettre là, dans la station là, de traitement des eaux usées. Puis, pour la vie quotidienne, bien, il y a aussi une pression sur le logement. Là. Dans les différents projets qui sont mis sur pause en ce moment, il y a le développement Humano. Ça, c'est presque 4000 unités résidentielles qui sont sur pause actuellement. Donc, on peut s'attendre à une hausse de loyer, on peut s'attendre à une difficulté là, accrue dans les prochaines années pour les gens de Lévis de se trouver des logements. Il y a deux autres affaires là, dont je voulais vous parler, là, si ça vous intéresse, parce que moi, je trouve ça fou comment les différents services de la ville de Lévis communiquent actuellement. Fait qu'on a une organisation qui octroie des permis de construction, on a une organisation qui évalue la capacité de son traitement des eaux. On a une organisation, ça, c'est du côté des affaires juridiques, qui sonne l'alarme là, avec la note interne qui est sortie aujourd'hui. Mais au final, là, tout ça, c'est une seule et même organisation, c'est la ville de Lévis. Donc, à travers différents chapeaux qui lancent des messages différents et qui n'a pas l'air de se parler au final. Là.
Est-ce que c'est la preuve qu'en politique, lorsqu'on devient obsédé par un objectif, on prend des mauvaises décisions? Parce que Gilles Laulier est obsédé par le développement puis de mettre Lévis dans les 10 plus grandes villes au Québec. Là.
Bien, clairement, il y a des mauvaises décisions qui ont été prises là-dedans. Je pense que c'est un très bon exemple de mettre la charrue devant les bœufs. Là. Finalement, là, la ville de Lévis se ramasse avec 31 millions de dollars de poursuites juridiques pour avoir mal planifié. Comme je viens de dire, c'est la même organisation qui était très, très, très au courant de ces enjeux de capacité de traitement des eaux usées, voulait développer à tout prix, puis là, se ramasse avec ça. Fait que le discours en ce moment du ministre de l'Environnement qui dit là, les villes, il faudrait qu'ils planifient mieux, qu'ils fassent les choses en étapes, bien, je peux pas être autre chose que d'accord avec ça. Il y a un autre truc intéressant qui est le cycle médiatique. Je pense que là, on est mercredi, presque 14 heures. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler cette semaine parce que cette histoire-là, il y a tellement de stock. Chaque jour va amener son nouveau pan, son nouveau chapitre. Donc, lundi, c'était la nouvelle du montant des poursuites. Mardi, l'avis juridique, la demande d'enquête de la part de l'opposition. Aujourd'hui, on a des détails là, sur l'inefficacité de l'usine de traitement des eaux. Puis là, je sais que les journalistes font leur job, continuent de creuser. Fait que demain, moi, quand je vais ouvrir les journaux, je, Je m'attends à voir autre chose. Là. Je vais rester aux aguets.
Tu les as connus à ton passage au Conseil de ville de Québec. C'est Olivier Lemieux de Radio-Canada et Taïb Moala du Journal de Québec qui sont sur le beat. Pascal, Alicia, je suis certain que vous allez être d'accord avec moi. On n'a pas fini d'en entendre parler. Puis les gars vont creuser ça, pas à peu près.
Puis il y en a qui crient « On en parlait déjà! »
Alicia Despins, toujours un bonheur de te parler. On se reparle mercredi prochain après le Conseil de ville de la Ville de Québec.
Bonne journée.
Salut, bonne journée. Alicia Despins, vous entendez sur nos ondes. C'est notre chroniqueuse politique en politique municipale. C'est notre spécialiste. Elle fait un excellent travail. Pascal CV, c'est déjà le temps de se dire au revoir.
À demain, mon ami.
Oh, oui, à demain. On se parle demain midi pour l'émission Nanjas. Gravel dans le retour suit à l'instant même. Bonne journée, guys.